À l'approche du 11 novembre, où nous commémorons l'armistice de la Première Guerre mondiale, nous nous demandons quel rôle la presse a joué dans ce conflit.
Le 11 novembre 1918, les plénipotentiaires allemands signent à Retonde, dans le wagon de commandement du maréchal Foch, les conditions de l'armistice. Une victoire acquise auprès de millions de soldats morts au combat dont nous faisons mémoire chaque année. L'anniversaire de l'armistice nous donne l'occasion ce matin de mettre la lumière sur le rôle de la presse pendant la Première Guerre mondiale. Nous sommes pour cela en ligne avec Jean-Louis Morin, historien et auteur de « Combattre et informer, l'armée française et les médias pendant la Première Guerre mondiale » aux éditions Codex. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis le Gers, si je ne me trompe pas de département.
C'est ça. Je suis bien dans le Gers, madame.
Quelle était la situation de la presse française au début de la guerre en 1914?
Eh bien, au début de la guerre en 14, la presse est de très loin le média dominant. On peut dire que le journal est roi. On dénombre 80 titres à Paris, 242 en province, pour un tirage total de 9 500 000 exemplaires. Et si on rapporte ce tirage à la population française à l'époque, 40 millions d'habitants, c'est tout à fait considérable. Le journal restant une habitude des villes dans un pays qui est essentiellement rural. Il y a une presse qui domine toutes les autres. Il s'agit de la presse quotidienne parisienne et plus précisément des grands journaux d'information. Nous avons...
Ils s'appelaient comment ces grands journaux d'information?
Alors ces grands journaux, c'était justement, je vais les énumérer. Nous avons donc en premier lieu le Petit Parisien, puis le Petit Journal, le Matin, le Journal et l'Écho de Paris. À eux seuls, ils représentent 5 millions d'exemplaires. Et le Petit Parisien, je dirais, domine l'ensemble avec 1 500 000 exemplaires. Nous avons des journaux qui sont millionnaires en tirage, du moins certains d'entre eux. Et il y a une question qui se pose au moment où les hostilités sont engagées. Est-ce que la presse va pouvoir continuer en tout cas la grande presse d'information a proposé finalement des tirages élevés, sachant que c'est cette presse-là qui est de très loin la plus lue. Il y a aussi une presse d'opinion.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
Il y a une presse d'opinion. On peut citer l'œuvre, on peut citer la liberté, l'humanité, l'homme libre qui deviendra l'homme enchaîné. Il y a certes une presse d'opinion, mais c'est la presse d'information et plus largement, donc, ou plus précisément, la grande presse d'information qui est la plus lue. Alors cette presse, est-ce qu'elle va souffrir véritablement en termes de tirage de la guerre? Eh bien, il n'en est rien. Il n'en est rien et cette situation, si vous voulez, s'explique par le fait que les Français sont demandeurs d'informations sur la guerre. C'est normal. Ils veulent savoir ce que font les combattants. Les combattants eux-mêmes veulent avoir des nouvelles de l'arrière, de la population civile. Que fait-on pour nous aider? Que raconte-t-on sur nous? Et il y a une troisième raison qui est, me semble-t-il, très intéressante. Les journaux sont tenus de paraître sur une seule feuille plusieurs fois par semaine pour économiser le charbon, le charbon qui entre dans la fabrication du papier, mais le charbon qui est utile à la défense nationale. Donc il faut économiser le charbon et les journaux donc qui paraissent sur une seule feuille plusieurs fois par semaine compensent par un tirage plus important. Donc on va avoir finalement une situation favorable en termes d'exemplaires tirés, d'exemplaires vendus, ainsi le Petit Parisien, le très très grand journal de l'époque, passe d'1 500 000 exemplaires à 2 millions et plus en 1916. Donc c'est une chose énorme.
Est-ce que malgré cette domination des grands journaux d'information, notamment ce Petit Parisien dont vous nous parlez à l'instant, Jean-Louis Morin, est-ce qu'il y a quand même des journaux qui font l'objet d'une censure pendant cette Première Guerre mondiale?
Tous les journaux font l'objet d'une censure, la censure qui est mise en place dès l'entrée en guerre, très très rapidement. Il se trouve que la censure va affecter d'abord plutôt, je dirais, la presse d'opinion, mais tous les journaux, dans l'absolu, sont concernés par la censure, et ce, je dirais, pour une raison fondamentale, qui tient à la justification de la censure. Pourquoi la presse est censurée au début de la Première Guerre mondiale? Pourquoi la censure tombe tout de suite? L'explication, c'est un traumatisme. Le traumatisme causé par les indiscrétions de presse de la guerre de 1870. En effet, c'est une information publiée notamment par le journal Le Temps concernant des mouvements de troupes MacMahon voulant se porter au secours de Bazaine qui ont permis au grand état-major allemand d'acquérir la certitude des mouvements de troupes français. Et partant de là, ça a contribué, semble-t-il, donc à la défaite de 1870. Mmh. Ces indiscrétions de presse défavorables, franchement, à la cause française, oui, sont dans toutes les mémoires, à commencer par celles des responsables politiques, des chefs militaires et même des journalistes. Et il faut absolument éviter que cela se reproduise. Voilà, un grand journal que j'ai cité, l'Écho de Paris, le 3 août, écrit « On sait quelles effroyables conséquences ont eu pour le sort de nos armes en 70 d'imprudentes révélations. Mmh. » Il faut absolument éviter cela. Oui. Et pour éviter cela, le Parlement n'y va pas, je dirais,
par
quatre chemins, par deux de la cuillère. Le Parlement décide donc d'une loi sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre, la loi du 5 août 1914, qui interdit de publier toute information et renseignement autre que ceux communiqués par le gouvernement ou le commandement sur les points essentiels de la défense nationale, a commencé par les emplacements et mouvements des armées. Je l'ai évoqué finalement à travers les indiscrétions de presse de 1870, voilà, qui ont coûté fort cher.
Et ça finalement, cette loi, elle a été appliquée et ça a pu donner un cadre à la presse française pendant la Première Guerre mondiale?
Oui, la loi en question, effectivement, a été appliquée. La censure, si vous voulez, n'a pas d'existence légale à proprement parler, mais il y a cependant trois lois qui constituent le socle de la censure, dont cette loi du 5 août 1914, et on voit que des journaux qui tartinent un petit peu, pour dire ainsi, sur les opérations, vont, je dirais, subir les conséquences de cette loi du 5 août 1914. Mm-hmm. Pour prendre un exemple, on a un journal, en l'occurrence le Matin, qui, par deux fois, note dans ses colonnes un certain nombre d'éléments concernant les gaz asphyxiants.
Ah oui.
Voilà. Et bon, c'est une information susceptible de nuire au moral des combattants. C'est une information susceptible de renseigner le haut commandement allemand. Mmh. Donc, il faut impérativement stopper ce genre de choses et donc des journaux comme Le Matin sont suspendus.
D'accord. Vous disiez, Jean-Louis Morin, que la presse française parvenait aux combattants. Elle était aussi un moyen de les renseigner sur ce qui se passait finalement à l'arrière du front. Et inversement, l'arrière du front avait besoin, enfin tous les Français avaient besoin de savoir ce qui se passait aussi sur les terrains de combat. Comment les autorités militaires ont géré cette double attente vis-à-vis de la presse?
Alors, vous y faites allusion, la presse était très lue. Elle était très lue. Les journaux parviennent aux combattants. Leur nombre est considérable. J'ai retrouvé quelques chiffres. Je peux les donner rapidement. Hein. En janvier 1918, nous avons 350 000 exemplaires de journaux qui parviennent à la troupe, ce qui fait un exemplaire pour 8 combattants. Et sur les 350 000 exemplaires qui parviennent à la troupe, trois, on peut le dire, se taillent la part du lion. Ce sont trois grands journaux d'information. Le Petit Parisien, ce n'est pas une surprise, 120 000 exemplaires. Le Matin, que j'ai cité aussi, 82 000 exemplaires. Le Journal, 65 000 exemplaires. Ce qui fait, pour ces trois journaux, 86%, si vous voulez, de l'ensemble des journaux distribués aux combattants, ce qui est tout à fait énorme.
Oui, c'est énorme. Dans ces journaux, il y a, j'imagine, des informations qui doivent être positives pour soutenir le moral des combattants.
Alors, tout à fait. C'est une chose à laquelle, notamment, Pétain va s'atteler lorsqu'il va prendre le commandement de l'armée française en mai 1917. C'est le moment où le moral des combattants est au plus bas. Et Pétain, comme Joffre au début de la guerre, Pétain est convaincu que la presse est un instrument, est une arme de guerre d'une certaine façon. La presse peut agir sur le moral en publiant sur un certain nombre de sujets des articles positifs pour le moral des combattants. Par exemple, parler des Américains, montrer la rapidité de leur méthode. Et par ailleurs, il faut éviter certains sujets comme des affaires criminelles, des affaires scandaleuses qui prennent beaucoup de place dans les colonnes, je dirais au détriment de choses qui peuvent se passer sur le front et que les soldats peuvent avoir plaisir à lire dans les colonnes des journaux, dès lors évidemment qu'il n'y a pas là d'indiscrétion, de choses qui peuvent nuire à la défense nationale. Donc Pétain va mettre en place tout un système d'orientation de la presse et il va demander à ses grands subordonnés, deux fois par mois, de lui faire parvenir un rapport sur les effets de la presse sur le moral des combattants auprès de la troupe. Est-ce que il y a des sujets visiblement qui causent un trouble chez les combattants? Est-ce qu'il y en a d'autres, au contraire, qui permettent visiblement d'avoir une incidence positive sur ce moral?
Et de fait, ces rapports le prouvent.
Alors ces rapports le prouvent, tout à fait. Tout à fait. Pour être très précis, sans être long, parce que le temps passe vite, je dirais que j'ai travaillé sur une trentaine de rapports des grands subordonnés de Pétain. Et c'est extrêmement intéressant. On trouve donc dans ces rapports des choses extrêmement précises sur le ressenti des soldats. Voilà, donc il y a des sujets dont il ne faut pas parler, c'est clair. Il y en a d'autres, il faut y aller, notamment effectivement les Américains, mais encore faut-il le faire de façon, je dirais, habile. Il ne s'agit pas d'y aller par des anecdotes, il faut des articles solides qui montrent que ces gens-là, on les a à nos côtés, et bien avec eux, on ne peut que gagner la guerre.
Est-ce qu'il y a, Jean-Louis Morin, des journalistes qui se sont distingués pendant la Première Guerre mondiale?
Alors oui, il y a des journalistes qui se sont distingués pendant la Première Guerre mondiale. Il y en a un auquel on pense, je dirais, presque naturellement parce que il est devenu emblématique, c'est un certain Albert Londres. Albert Londres, au tout début de la guerre, est, je dirais, un illustre inconnu qui va devenir d'un coup célèbre. Avec un seul article, il va devenir célèbre. En septembre 1914, le 21 septembre 1914, il publie un article sur le bombardement de la cathédrale de Reims. Ce simple article le rend célèbre. La chute même de cet article est magnifique. La cathédrale de Reims rend son âme à Dieu. Ça touche incontestablement le lecteur. Albert Londres devient célèbre.
D'autres. Et puis malheureusement, le temps nous manque pour aborder les autres, mais je le dis pour vous, puisque vous m'en avez parlé hier, pour les États-Unis, Robert Berry et Henry Wood, et puis Cocorico quand même, Maurice Sarrault, qui était directeur directeur administratif de La Dépêche, qui avait été à l'origine d'une pétition pour la création d'un groupe de correspondants de guerre. Voilà, pardon, hein, je prends l'information, mais elle vient bien de vous. Merci beaucoup, Jean-Louis Morin. Vous nous avez présenté l'activité de la presse pendant la Première Guerre mondiale, un sujet à mettre en perspective à l'approche du 11 novembre. Mais je rappelle que vous êtes historien et le titre de votre livre est « Combattre et informer l'armée française et les médias pendant la Première Guerre mondiale » aux éditions Codex. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.